On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. Faites du sport et non la guerre. Un texte de Maxime Ouellette, paru le 15 septembre 2025 dans les as de l'info. Comme tu le sais, le sport, c'est bon pour la santé. Mais ce n'est pas tout. Selon un groupe de chercheurs à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, le sport peut aussi contribuer à la paix, au développement des pays et même à protéger l'environnement. Comment? Tegwen Gadet, le professeur qui dirige ce groupe de chercheurs, nous explique. Tegwen est professeur d'activité physique à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Auparavant, il a voyagé dans le monde pour aider les enfants et les jeunes à avoir une vie meilleure grâce à l'activité physique. Maintenant, il est co-responsable d'un grand projet appelé la chaire Sport pour le développement, la paix et l'environnement. Ça nous a intrigués. Je lui ai posé des questions. Comment le sport peut-il favoriser la paix? Le sport peut faire des choses que même les grands chefs de pays n'arrivent pas toujours à faire, dit Tegwen Gadet. Par exemple, le sport aide les gens à se rencontrer, à partager et à devenir amis. Même dans les pays en guerre ou très pauvres, les enfants peuvent jouer en se courant les uns après les autres ou en se fabriquant un ballon. Le savais-tu? Pendant la Première Guerre mondiale, en 1914, des soldats ennemis ont arrêté de se battre à Noël. Au lieu de se tirer dessus, les soldats se sont rejoints sur le champ de bataille pour jouer au soccer et échanger de petits cadeaux. La guerre a repris ensuite, mais c'était un moment de paix au milieu des combats qui a marqué les esprits. Comment le sport peut-il favoriser le développement? Tegwen m'a donné l'exemple d'un beau projet québécois qui aide des gens très loin, en Afrique. C'est l'organisme Cyclo Nord-Sud qui récupère de vieux vélos, qui les répare et qui les envoie au Togo. Là-bas, les vélos aident beaucoup. Des gens peuvent les vendre, donc ça crée du travail. À vélo, les jeunes peuvent aller à l'école plus facilement et les agriculteurs peuvent apporter leurs fruits et légumes au marché, explique Tegwen. C'est toute la communauté qui en bénéficie. Comment le sport peut-il favoriser l'environnement? Les vélos, comme ceux de Cyclo Nord-Sud, créent bien moins de pollution que les autos. C'est en répétant ce genre de projet ailleurs dans le monde que le sport en vient à améliorer l'environnement, souligne Tegwen. Les changements climatiques ont un impact sur l'activité physique. Par exemple, il arrive que des terrains de sport soient inondés ou que des vagues de chaleur nous empêchent de jouer dehors. Tegwen rappelle qu'il faut faire attention à la planète si on veut continuer à faire du sport dans de bonnes conditions. Pour cela, il faut aussi faire attention à ce qu'on achète. Par exemple, pas besoin d'avoir 4 paires de souliers de course. Une seule suffit. Il faut essayer d'utiliser juste ce dont on a vraiment besoin. Et toi, t'es-tu déjà fait un ami grâce au sport? Raconte-moi. Air Canada, STM et Ville de Montréal, ça sent la grève cet automne. Un texte de Marie-Lie Beaudoin, paru le 12 septembre 2025 dans les As de l'Info. La fraîcheur dans l'air et les arbres qui changent de couleur ne seront peut-être pas les seuls signes du début de l'automne cette année. En effet, plusieurs grèves pourraient être déclenchées en même temps que l'arrivée des citrouilles. Air Canada, STM et Ville de Montréal. Voici ce que tu dois savoir. Air Canada, les turbulences continuent. En août, les agents de bord d'Air Canada ont déclenché une grève. C'est parce qu'ils réclament de meilleures conditions de travail, surtout un meilleur salaire. Résultat, en 5 jours, environ 2320 vols ont été annulés. Peu après, le syndicat des travailleurs et Air Canada ont conclu une entente de principe, ce qui a permis aux avions de recommencer à voler. Mais ce genre d'entente, c'est une solution provisoire qui doit ensuite être approuvée par les employés. Et samedi dernier, coup de théâtre, 99% des agents de bord ont rejeté l'entente. Les négociations reprennent donc. Les employés et Air Canada ont accepté de recourir à un arbitre, c'est-à-dire une personne neutre qui tranche sur les désaccords si aucune entente n'est trouvée. Air Canada promet que, pour l'instant, les vols ne seront pas touchés, mais le syndicat pourrait toujours repartir en grève. STM, ralentissement sur toutes les lignes. Du côté de la STM, les employés d'entretien, ceux qui nettoient les stations et prennent soin des véhicules, entre autres, négocient eux aussi depuis plusieurs mois pour améliorer leurs conditions de travail. Pour faire bouger les choses, ils ont annoncé une grève de 14 jours, du 22 septembre au 5 octobre prochain. Durant ces 2 semaines, le métro et les bus rouleront, comme à leur habitude, les mardis, jeudis, samedis et dimanches. Les autres jours, lundi, mercredi et vendredi, il n'y aura du service que pendant l'heure de pointe du matin, celle de l'après-midi et très tard, en soirée. En juin, une grève semblable avait causé pas mal de frustration pour les Montréalais et Montréalaises qui utilisent les transports en commun. Ville de Montréal. L'école bleue voit rouge. L'école bleue, ce sont les travailleurs et travailleuses qui effectuent des tâches manuelles pour la ville. Entretien des rues, réparation des trottoirs, nettoyage des parcs, etc. Tout comme les employés d'Air Canada et de la STM, ils réclament de meilleures conditions de travail. Ils demandent notamment un meilleur équilibre travail-vie personnelle et un meilleur salaire. La semaine dernière, ils ont voté pour un mandat de grève, c'est-à-dire une autorisation d'arrêter de travailler si leurs demandes ne sont pas écoutées. De nouvelles négociations avaient lieu ce jeudi et une entente de principe a finalement été trouvée. Reste maintenant à voir si les cols bleus vont l'accepter ou la rejeter, comme dans le cas d'Air Canada. S'ils votent non, une grève pourrait être déclenchée dans les prochaines semaines. Cela pourrait perturber plusieurs services municipaux, comme la collecte des ordures et du recyclage ou encore la fermeture des arénas et des piscines. Selon toi, faire la grève, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Un allié de Donald Trump assassiné. Que penser de cette violence? Un texte de Marie-Lise Beaudoin, paru le 11 septembre 2025 dans les As de l'Info. Mercredi, l'influenceur controversé Charlie Kirk, un proche allié de Donald Trump, a été tué par balle lors d'un rassemblement politique en Utah, aux États-Unis. Qui était Charlie Kirk? Que faire devant cette violence? Voyons ça ensemble. Qui était Charles Kirk? Âgé de 31 ans, Charlie Kirk était un militant américain d'extrême droite très populaire auprès des jeunes. Il était connu pour participer à des débats où il défendait ses idées controversées. Il désirait, entre autres, que l'avortement soit illégal en toutes circonstances, niait les changements climatiques et était en faveur du port d'armes à feu. Il avait également des discours ouvertement racistes, sexistes et tenait des propos violents envers la communauté LGBTQ+. Au fil des années, il est devenu une personnalité influente de la droite américaine et a contribué à la victoire de Donald Trump aux dernières élections. Très présent sur TikTok, Instagram et YouTube, il cumulait des millions d'abonnés. Il s'adressait plus particulièrement aux jeunes. Ce qui s'est passé. Le 10 septembre, Charlie Kirk était à l'Université de l'Utah, aux États-Unis, pour animer un rassemblement politique. Avant l'événement, 7000 étudiants qui s'opposent à ses propos avaient signé une pétition qui demandait à l'université d'empêcher Charlie Kirk de venir, mais le rassemblement a tout de même eu lieu. Devant une foule d'environ 3000 personnes, il répondait aux questions du public, et alors qu'il parlait des armes à feu, une personne lui a tiré dessus. Malheureusement, il n'a pas survécu. C'est le président Donald Trump qui a annoncé le décès de Charlie Kirk dans une publication sur son média Truth Social. Dans son message, il offre ses sympathies à la famille et présente Charlie Kirk comme un héros ayant à cœur la jeunesse américaine. Il souligne également l'admiration qu'il lui portait. Les réactions. La nouvelle a rapidement fait le tour du monde et a provoqué de fortes émotions au sein des Républicains, le parti politique de Donald Trump. Plusieurs ont exprimé leur choc et certains considèrent le drame comme une attaque politique ciblée contre tous les conservateurs. Du côté des démocrates, le parti opposé aux Républicains, des personnalités politiques comme Kamala Harris et les anciens présidents des États-Unis, Joe Biden et Barack Obama, ont eux aussi dénoncé le crime. Dans leur publication, ils affirment que la violence politique n'a pas sa place aux États-Unis. Mais sur les réseaux sociaux, des personnes se sont réjouies de la mort de Charlie Kirk. Certaines sont d'avis qu'il n'a eu que ce qu'il méritait parce qu'il était pour le port d'armes à feu et parce que ses propos attisaient la haine et la violence contre plusieurs groupes. Cela soulève une question importante. Combattre la violence par la violence, est-ce une solution? La réponse sera toujours non. Pour l'équipe des As, c'est très clair. En politique, certaines idées touchent directement nos valeurs profondes. Ce qu'on considère bien ou mal, juste ou injuste, et quand les opinions de quelqu'un s'opposent aux nôtres, cela peut provoquer de la colère, de la peur ou un sentiment d'injustice. Mais la mort d'un être humain est un drame. Derrière Charlie Kirk, il y a aussi sa famille, ses amis, ses proches. Ce qu'on aimerait que tu retiennes. En politique, comme à l'école ou dans notre famille, il y a toujours d'autres solutions que la violence. Au lieu des balles, au lieu des coups et des insultes, on peut parler, débattre, voter ou encore manifester pacifiquement. Ces moyens demandent plus de patience et de respect. Mais ce sont eux qui permettent de construire un avenir plus juste et plus sûr pour tout le monde. La violence, elle, fait tout l'inverse. Elle divise, crée de la haine et un climat non sécuritaire. Ce n'est jamais acceptable. Et toi, as-tu déjà fait valoir ton opinion sans violence? Skate et sensations fortes au Jackalope. Un texte de Frédéric Sauvé, paru le 16 septembre 2025 dans les As de l'Info. Les sports extrêmes étaient à l'honneur à Montréal la fin de semaine dernière. Entre skate et escalade, le vieux port accueillait le jackalope. Au menu, plus de 150 athlètes professionnels venus du monde entier pour nous épater. J'étais à l'événement, je t'explique tout. J'espère que tu n'as pas peur des sensations fortes. C'est quoi le jackalope? Le jackalope, c'est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sport extrême. Présent au Canada et aux États-Unis, le festival attire certaines des plus grandes vedettes de la planche à roulettes. Et c'est gratuit. Pour cette 13e édition à Montréal, on a été gâtés. Le public pouvait tester plusieurs activités comme l'escalade ou encore du parkour. Mais rien n'égale l'attraction principale. La grande vedette du week-end était cette énorme demi-lune que l'on appelle la Verre. Cette rampe de plus de 5 mètres de haut a accueilli une compétition ouverte à tous. Après les qualifications, place à la grande finale. Les gagnants de l'édition 2025. Chez les hommes, l'Américain J.D. Sanchez est allé chercher la victoire. Malgré un poignet cassé, rien n'a arrêté le numéro un mondial à Montréal. À seulement 16 ans, il confirme son statut de vedette du skateboard. Et parlant de relève, difficile de passer sous silence Emma Kawakami. Du haut de ses 11 ans, il a obtenu le meilleur score en qualification. Déjà considéré comme l'un des meilleurs skaters au monde, il a encore de belles années devant lui. En fin de semaine, il était le seul à réaliser un 900. C'est l'équivalent de 2,5 tours dans les airs. Chez les femmes, l'Australienne Ariza True a tout simplement dominé. Médaillée d'or aux Jeux olympiques de Paris en 2024, elle a enchaîné les figures avec une élégance impressionnante et a remporté la compétition. À seulement 15 ans, elle continue de briller, reconnaissable avec son casque rose fluo. Les jeunes en vedette. Comme tu as pu le remarquer, le skate est un sport où les athlètes sont très jeunes. Au jackalope, la plupart avaient entre 9 et 19 ans. C'était le cas de la Québécoise Mallory Lune Query, 15 ans, qui participait déjà à sa 3e édition du festival. J'ai eu la chance de discuter avec elle. J'ai juste du fun à être en haut. Le sentiment de voler. J'aimerais que tout le monde le ressente, m'a-t-elle confié avec un enthousiasme contagieux. Pour la résidente de Champlain en Mauricie, côtoyer des légendes du skate, c'est comme un rêve éveillé. Je lui ai demandé un conseil pour les As. Quand tu as une passion, tu n'es pas obligé d'être le meilleur pour avoir du fun. Tu ne dois pas avoir peur du ridicule. Et toi, as-tu déjà fait du skateboard? On connaît les noms des prochaines stations de métro. Un texte de Marie Bernier, paru le 11 septembre 2025 dans les As de l'Info. Dans les prochaines années, le métro de Montréal comptera 5 nouvelles stations de métro. Elles seront situées sur la ligne bleue dans l'est de la ville. Et mardi, on a appris comment elles allaient s'appeler. 3 d'entre elles porteront des noms de femmes qui ont eu un impact positif sur la société québécoise. Monte à bord, je te les présente. Avant d'aller plus loin, as-tu déjà remarqué que les stations du métro de Montréal portent habituellement le nom d'une rue importante tout près? Ça aide les gens à se situer. C'est le cas, par exemple, des stations Henri Bourassa, Jean Talon ou Viau. Mais comme les rues portent plus souvent des noms d'hommes, très peu de stations de métro sont nommées d'après des femmes. En fait, c'est le cas de seulement 3 stations sur les 68 du réseau. Il s'agit de Villa Maria, Côte-Sainte-Catherine et Square Victoria, OACI. Le prolongement de la ligne bleue était l'occasion de corriger un peu les choses. Cette fois, au lieu de simplement regarder sur une carte pour trouver les noms, un comité a longuement réfléchi. Il a finalement choisi 3 femmes à honorer. Envie de savoir qui c'est? C'est parti. Mary to Axe Early. Cette militante Mohawk a bataillé pendant des années contre une injustice qui affectait les femmes autochtones. Jusqu'en 1985, celles qui se mariaient avec un non-autochtone perdaient automatiquement leur statut d'indienne. Conséquence, elles ne pouvaient plus vivre dans leur communauté ni transmettre leur statut à leurs enfants. Pourtant, ce n'était pas le cas des hommes qui mariaient une blanche. L'engagement de Mary to Axe Early a contribué à mettre fin à cette discrimination. Cesira Parisotto. Née en 1909 en Italie, cette religieuse est arrivée au Québec en 1949. Pendant les décennies qui ont suivi, elle s'est consacrée à aider les enfants, les aînés et les malades. Elle était aussi connue sous le nom de Mère Anselme. C'est elle qui a fondé l'école Marie Clarac, que tu connais peut-être. Madeleine Parent. Très tôt, Madeleine Parent a défendu les droits des travailleurs. Elle a participé à créer des syndicats et s'est même fait arrêter par la police à cause de ses convictions. C'était aussi une grande féministe qui a inclus les femmes immigrantes et autochtones dans sa lutte. Et les 2 autres stations? Elles s'appelleront Vertières et Anjou. Vertières évoque une bataille très importante qui a mené à l'indépendance d'Haïti en 1803. C'est une façon de saluer la communauté haïtienne importante dans cette partie de la ville. Quant à Anjou, la raison est simple, c'est l'arrondissement où se trouvera la nouvelle station. La ligne bleue devrait entrer en service en 2031. Et toi, si tu pouvais donner le nom d'une personne inspirante à une station de métro, qui choisirais-tu? Pour ou contre l'intelligence artificielle en art? Un texte de Caroline Bouffard, paru le 15 septembre 2025 dans les As de l'Info. Dans les derniers mois, des chansons et même des groupes de musique entièrement générés par des programmes utilisant l'intelligence artificielle, IA, sont apparus sur Spotify. Plus près de nous, le Festival d'été de Québec s'est fait critiquer pour ses affiches réalisées à l'aide de l'IA et qui comportaient une grosse erreur. Une main à 4 doigts. Les créateurs sont inquiets. Ils ont peur que des machines leur volent leur travail. D'un autre côté, les outils d'IA rendent l'art accessible à tout le monde. Mais est-ce que c'est encore de l'art? Pour ou contre, utiliser l'intelligence artificielle en art? Les pour, c'est une nouvelle forme d'art. La photo, le cinéma, l'animation 3D, toutes ces techniques ont été critiquées à leur début. On disait par exemple que la photographie allait tuer la peinture. Maintenant, ce sont des formes d'art acceptées. C'est la même chose pour l'IA. La nouveauté fait peur, mais avec le temps, on s'habitue. C'est une bonne source d'inspiration. Ce qui est généré par l'IA peut-être un point de départ pour inspirer les artistes. L'IA produit du contenu à partir d'indications données par un humain. Un pinceau ne peint pas seul, non? C'est la même chose pour l'IA. C'est un nouvel outil pour les créateurs. C'est économique et accessible. On peut créer des logos, de la musique, des films, sans être obligé d'acheter tout l'équipement ou de payer des gens pour le faire, ou d'avoir étudié en art. C'est une façon de créer qui est accessible à tous. Un film créé par l'IA. Cette vidéo est un extrait de Plastique, un court-métrage entièrement généré par l'intelligence artificielle. Les personnages, les décors, les dialogues, la musique, tout. Les contres. C'est une forme de plagiat. L'IA n'invente rien. Elle se nourrit à partir d'œuvres qui existent déjà. Elle peut écrire, faire de la musique ou de la peinture parce qu'elle a emmagasiné des milliards de textes, d'images et de sons. Et les artistes qui ont conçu ces œuvres n'ont jamais donné leur permission et ne reçoivent rien en retour. Anne Robillard, l'autrice de la série « Les Chevaliers d'Émeraude », a décidé de poursuivre Microsoft et OpenAI, ChatGPT, qui se servent de ces livres pour alimenter l'IA. Ça prive les créateurs de travail. C'est déjà extrêmement difficile de gagner sa vie comme artiste. L'utilisation de l'IA aggrave les choses. Le pire, c'est que le résultat n'est souvent pas à la hauteur. Les artistes ont l'œil et voient tout de suite que ce n'est pas une création humaine. Et c'est encore plus choquant quand des musées ou des festivals, qui devraient avoir la culture à cœur, se servent de l'IA au lieu d'engager des humains. L'an dernier, le musée Pointe-à-Calière a eu recours à l'IA pour les affiches d'une exposition sur les sorcières. Ce n'est pas de l'art. Si l'art nous touche, nous fait rire ou pleurer, c'est que ce sont d'autres humains qui s'expriment et nous parlent à travers leurs œuvres. C'est une forme de communication. Les œuvres générées par l'IA sont faites sans émotion. Ce n'est pas de l'art. Toi, es-tu pour ou contre l'utilisation de l'intelligence artificielle en art?
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Gilbert, Eva, Mathieu et Samuel.